en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Mesdames et messieurs de l'Académie, chers amis venus assister à cette séance, à mesure que je réfléchissais à quoi pourrait ressembler cette communication, au sujet proposé, imposé, la fin de la chrétienté, je me suis aperçu, à reprise, comme disait Saint-Simon, combien ce thème avait déjà été abordé par nombre d'entre vous, directement ou bien par incise, dans vos ouvrages. Si bien que cette veillée d'armes prit des allures de descente de Daniel dans la fosse aux lions. Je me trouvais à peu près assuré du secours divin, beaucoup moins d'être un prophète, pas du tout du degré d'appétit des lions. La fin de la chrétienté apparaît de surcroît un sujet piégé pour ce dont il s'agit, pour celui qui est chargé de le traiter, et pour la multiplicité des sens possibles de l'énoncer. Pour ce dont il s'agit, car plusieurs caractérisations voisines ont eu lieu, et par exemple, pour se limiter à deux, l'ouvrage déjà ancien mais inaugural d'Emmanuel Mounier, « Feu la chrétienté » en 1950, et aussi, et d'une autre façon, la phrase presque trop connue de Marcel Gauchet, « Ainsi le christianisme aura-t-il été la religion de la sortie de la religion ?» Mais entre ces deux pôles, il semble que le terrain soit balisé, mais aussi cabossé. Une chrétienté défunte et un christianisme d'évacuation désignent-ils la même réalité ou la même façon de l'aborder ? En outre, en considération de celui qui est chargé de traiter le sujet, il faut tout de même admettre qu'avoir invité un ecclésiastique à disserter sur l'exténuation de ce qu'il représente relève d'un exercice un rien pervers. Inversement, est-il habilité à s'exprimer sur la dimension sociologique, pour ne pas dire politique, mais surtout philosophique, sur ce qui a trait à l'articulation entre religion et laïcité, lui si peu laïque ? Enfin, le sujet tire sa difficulté des sens possibles de l'énoncé. Se présente-t-il comme une affirmation, une question, un indécidable, peut-être un peu détroit, auquel cas il se demande dans quelle mesure, avec quelles limites, nous pouvons parler de la fin de la chrétienté. La fin dont il s'agit pourrait-elle désigner le but, la cause finale de la chrétienté, ce en vue de quoi la chrétienté se présente ? Hélas, il faut renoncer à cette lecture facile. La fin dont il s'agit n'est pas le but, mais plutôt le terme, la cessation, l'hypothèque entre extinction et remplacement. La chrétienté est-elle finie et avec elle le christianisme ? Il s'agit aussi de se demander qui parle, qui se trouve spectateur de la fin de la chrétienté ou peut-être même acteur. Le locuteur exprime-t-il un fait, un souhait, un regret, un cri de triomphe ou une auto-analyse ? Il s'agit enfin de poser que, si les significations peuvent être multiples du terme de chrétienté, comme à degré, partie ressemblante, partie dissemblante, analogique peut-être, de telles significations impliquent-elles autant de fins ? Si la chrétienté dans tous ses états appelle plusieurs manières de finir, elle pourrait aussi postuler plusieurs façons de ne pas finir. En d'autres termes, la fin est-elle inéluctable ? Est-elle fin sous tous les rapports ou seulement certains ? En conséquence, laisse-t-elle des possibilités d'un prolongement et lequel ? Résumons-nous, la fin de la chrétienté est un énoncé qui, lorsqu'il se redresse en question, balance en une relative pluralité de postures entre plusieurs sens du mot chrétienté et plusieurs sortes de fins. D'où ma question, synthétiquement et antithétiquement posée, la chrétienté est-elle finie ou bien risque-t-elle de rater sa sortie ? D'où les trois moments de cet exposé, les trois modèles de la chrétienté et un quatrième, l'articulation de la nature et de la grâce, avenir ou fin du quatrième sens de la chrétienté. Alors, premier point, les trois modèles de chrétienté et un quatrième. La chrétienté a déjà subi sa propre fin, mais elle a su s'adapter à des situations nouvelles, à la fois établies contre elle et issues de ce qu'elle continue à être. Distinguons plusieurs sens du mot chrétienté, correspondant à la fois à ces situations successives et aux modèles interprétatifs qui les ont proposés. Pour plagier le beau livre d'Étienne Gilson, « Les métamorphoses de la cité de Dieu » de 1952, dont je reparlerai tout à l'heure, nous assistons à quelques métamorphoses de la chrétienté. J'en propose trois et puis une quatrième. Au préalable, je voudrais distinguer christianisme et chrétienté. Le christianisme s'attache plutôt, et en premier lieu, à la doctrine chrétienne, révélation biblique, et particulièrement messages et œuvres salvifiques du Christ consignés dans le Nouveau Testament. Puis, continuation de Jésus-Christ dans l'Église, par les sacrements, la liturgie, la vie spirituelle, la vie intellectuelle, et les activités humaines mues par la charité, qui en découle. Par voie de conséquence et par extension, à la civilisation chrétienne qui se met en place selon plusieurs cultures, à la fois identique quant aux principes et différente quant à un certain nombre de caractéristiques propres. La chrétienté, elle, parle des mêmes choses, mais sous un éclairage braqué en quelque sorte dans l'autre sens. Elle s'intéresse d'abord non plus à la doctrine qui est supposée, mais à la civilisation qui en découle, aux œuvres humaines que l'esprit chrétien pousse à réaliser, tant au plan personnel qu'artistique et finalement politique. Les réalisations ou les structures qui permettent celles-ci, ou encore la manière d'aborder les questions, sont autant d'effets de chrétienté. J'appelle effets de chrétienté les modèles sociaux et politiques qui sont issus du christianisme en tant qu'ils opèrent une inculturation réussie. Ce n'est pas le christianisme qui se modifie, même s'il sait s'adapter au conditionnement culturel, mais au contraire, c'est lui qui modifie les cultures, en les adaptant à une réalité nouvelle. Par exemple, la villa romaine, exploitation agricole tenue par une grande famille et dont les bâtiments se distribuent autour d'un quadrilatère couvert et à colonnes, va devenir un monastère avec un abbé, une communauté autour de ce qu'on va désormais appeler son cloître. Seules les vaches circonvoisines traversent fièrement de telles mutations sans ciller. Et aussi, tout simplement, en les purifiant de leurs racines païennes et de ce qu'elles pouvaient receler d'incompatibilité avec la foi chrétienne. Le mariage, le droit de vie et de mort, les lieux de culte, la philosophie. De façon éminente, mais peut-être pas principale, comme l'avenir va le manifester, la politique, elle aussi, devient un effet de chrétienté. Si bien que, même aujourd'hui, nous pouvons assimiler chrétienté et régime politique se réclamant du christianisme. Roi, Saint-Empire, catholicisme d'État, religion des princes protestants en Allemagne, etc. Christianisme et chrétienté, en conséquence, ne s'équivalent pas. Ils parlent des mêmes choses, mais pas sous le même rapport. Un pôle doctrinal et un pôle de civilisation. Avec, en outre, un paramètre promis à des remises en cause et à des travestissements d'appellation, celui de la géographie où s'est implantée la civilisation. La chrétienté, c'est, outre le territoire chrétien des premiers siècles, y compris l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, c'est au premier chef désormais le territoire européen, en deuxième lieu les pays neufs sous influence européenne, et aujourd'hui en troisième lieu les pays neufs ou anciens avec ou sans influence européenne, comme en Extrême-Orient. Elle désigne alors une identité géographique sous le vocable de son appartenance au christianisme. Concédons-le à titre provisoire, cette situation n'est plus tout à fait telle. Voici donc les trois situations proposées de chrétienté. C'est un peu simplificateur, mais au moins ça permet d'aller vite. Le premier sens, que j'appellerais chrétienté par mode de fusion, puis par mode de distinction, c'est le même. Par mode de fusion, les institutions se réclament du christianisme, le clergé exerce une certaine forme de pouvoir, alternatif au pouvoir politique ou bien en collaboration directe et réciproque, d'où, à plusieurs époques du Moyen-Âge, la tentation d'intrusion mutuelle du pouvoir politique et de l'Église, mais aussi la réalité d'un bras de fer. C'est le pape Grégoire VII qui contraint, le 25 janvier 1077, l'empereur germanique Henri IV à se présenter devant le château de Canossa en habit de pénitent pour lever, 3 jours après, son excommunication. On se prend parfois à imaginer semblable scène aujourd'hui, je ne dis pas cela pour Madame Merkel. C'est réciproquement les pressions de Charles Quint et de François Ier sur le Concile de Trente qui donnent à des sueurs froides. Par mode de fusion, mais tout aussi bien par mode de distinction, non seulement entre le pape et l'empereur, ou entre tel et tel souverain, mais surtout sur le principe même entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Thomas d'Aquin est l'un des premiers à distinguer ces deux formes de pouvoir, de façon encore embryonnaire, mais explicite, dans son traité des Regnaux. La distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel va vivre une sorte de principe d'incubation pour ne se réaliser ensuite que sous forme de conflit. Il reste ce point qui attire notre attention, cette chrétienté-là, médiévale, en réalité, mais un peu aussi par reconstitution imaginative, demeure le modèle principal de chrétienté auquel on pense, auquel les autres modèles vont se référer tout en s'affranchissant de lui. Or, un tel modèle postule déjà la distinction du spirituel et du temporel, c'est-à-dire aussi une certaine articulation harmonieuse, quoique multiple, de la nature et de la grâce. Ce modèle-là n'existe plus, il a touché sa fin en tant que réalité politique. Le deuxième sens du mot chrétienté est la chrétienté par séparation. Ce sens caractérise la modernité. Il désigne toute forme de séparation du pouvoir politique, en fait par rapport à l'Église catholique principalement, notamment du fait de la Révolution française, ou et jusqu'à les lois de séparation de 1880 à 1905. Séparation et non plus distinction, ce deuxième sens repose sur une volonté de rupture. Pierre Manant dit que la modernité repose sur l'idée de séparation. Il propose 6 séparations possibles, dont celle d'Église et d'État. Tout ce qui découle de la politique d'Aristote relève d'une certaine union, tout ce qui relève de la modernité s'affranchit par séparation. Ce modèle structure la modernité, dont pour l'essentiel nous dépendons, pas seulement dans nos régimes politiques, mais aussi dans la culture, les mentalités, les décisions publiques, y compris chez les chrétiens. Cependant, et ce paradoxe ne manque pas de sel, la chrétienté moderne par séparation ne cesse de se séparer, autrement dit, ne cesse de dépendre, de la période qui l'a précédée et, pour tout dire, de la civilisation chrétienne à laquelle elle s'oppose. De ce point de vue, la laïcité demandera à être interrogée dans sa relation jamais clarifiée avec le christianisme. La chrétienté par séparation, me semble-t-il, est loin d'être finie. Troisièmement, troisième sens de chrétienté, par marginalisation. C'est le nôtre aujourd'hui, celui d'un monde dit postmoderne. En fait, ce sens-là se superpose aux deux premiers, pour autant d'ailleurs que la postmodernité est la figure inversée de la modernité et que celle-ci, comme je l'ai dit, dépend de la chrétienté à laquelle elle s'oppose. Tout cela finit par ressembler à une pyramide d'acrobates. Les spectateurs finissent par se demander si elle ne va pas s'écrouler sous l'effet de son propre poids. La modernité s'est construite sur la primauté conférée à la raison dite adulte à la manière de Kant, par opposition à l'articulation à la fois harmonieuse et subordonnée de la raison chrétienne à la foi. Elle en a repris le goût des principes universels, valables partout et pour tous. Mais elle a saisi au bon les premières fêlures apparues chez les théologiens du Moyen-Âge entre nature et liberté, pour poser désormais et de plus en plus la liberté contre la nature. Puisque la nature, quoique autonome en son ordre, dépendait de la grâce, la liberté moderne se présente à la fois comme rationnelle et braquée contre la nature autant que contre la grâce. Sartre en a cristallisé le désir profond, il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Au total, une révolte, mais cohérente, rationnelle, pourrait-on dire. La postmodernité, semble-t-il, au contraire, renverse la modernité et sa cohérence. Soupçon porté sur la raison, nihilisme prophétisé par Nietzsche pour 2 siècles, et comme le dit Jean-Luc Marion, il reste encore 80 ans à tirer. Finalement, dissémination, perte du sens, déconstruction. La chrétienté se voit alors marginalisée, évidemment au sens numérique, par réduction des effectifs des chrétiens, mais aussi au titre d'une perte d'influence, d'une insularisation, au titre de la perte de toute idée de vérité, et qui plus est d'une vérité par mode de révélation et donc d'autorité. Notre période postmoderne voit donc d'un côté se desserrer la mâchoire d'une modernité rationaliste, la raison on n'y croit plus, elle cesse son magistère laïque qu'elle voulait universel et normatif, comme dirait encore Pierre Manant, elle le cesse avec le retour désordonné du religieux et des appartenances religieuses. Sous ce rapport, la perte de normativité de la modernité laïque, rationnelle, semble une chance pour la chrétienté. Sous le rapport du relativisme, en revanche, que le désordre suppose, elle la marginalise au contraire, d'où le nom de marginalisation dont j'affuble notre situation. Pour ne pas en rester sur une mauvaise impression, je propose donc un quatrième sens, une chrétienté de conviction. Compte tenu de la situation actuelle, les chrétiens ont néanmoins, et pour cette raison même, de nouveau voix au chapitre. Ils ont appris à leurs dépens les conséquences de leurs erreurs des siècles passés. Ils ont appris à assumer le meilleur de la modernité, parfois dans la douleur. Ils ont survécu à de nombreux chauds et froids, avec des pertes qui relèvent de la campagne de Russie, à l'aller sous la chaleur et au retour sous le froid, mais enfin à la Bérézina à moins 30 degrés. Ils ont construit des ponts, ils ont soutenu un combat et ils sont passés. Certes, émaciés, ils ont appelé à renouveler leur manière de prendre leur place dans la société, non plus peut-être de manière dominante, mais de façon essentielle. Avant que d'en venir à l'exploitation de ce quatrième sens, il me paraît utile néanmoins de faire le point sur une articulation qui surplombe toutes les autres et en conditionne les soubresauts, celle de la nature et de la grâce. Mon deuxième point. Articulation de la nature et de la grâce. Appelons nature ce qui revient à l'homme en vertu des pouvoirs qui lui sont propres quant à l'être et quant à l'agir. Appelons grâce Dieu lui-même en tant qu'il se donne comme son secours à l'homme sous diverses formes, principalement le salut opéré par le Christ de toute l'humanité, puis par participation de toutes les applications visibles et invisibles de ce salut. La question qui nous intéresse est celle de l'articulation des deux domaines. Articulation sous la forme, bien sûr, d'une inclusion, d'une subordination, mais au profit de la nature autant que de la grâce, chacune de son côté et aussi de concert. Cette question se cristallise, pour le problème de la chrétienté, autour de 3 domaines. La liberté humaine, l'autonomie du politique, l'identité de la laïcité. Premier domaine qui conditionne les 2 autres, la liberté humaine. En régime chrétien, l'influence de la grâce n'empêche d'aucune façon la liberté, ni dans son principe, ni dans son exercice. La grâce ne s'empêche pas d'agir pour la préserver, au contraire, la grâce en agissant donne à l'homme d'agir comme homme. Dieu n'agit pas en nous à notre place, il nous donne d'agir, il meut à mouvoir. Plus Dieu fait sa demeure dans une personne humaine, plus celle-ci est libre. L'exemple le meilleur qui nous est livré, le Christ étant un peu hors concours, quoique concerné à sa manière, avec sa double nature divine et humaine en une seule personne divine, l'exemple donc qui nous reste, c'est Marie, la Vierge libre à l'Annonciation, la seule préservée du péché originel, la seule, comme dirait saint Augustin, à être capable de ne pas pécher, donc la seule libre par excellence. En d'autres termes, dit Thomas d'Aquin, Dieu nous donne la dignité de la causalité. La dignité de la causalité, la liberté d'agir, la responsabilité, la nature autonome dans et sous la grâce, autonome mais non pas indépendante. Deuxième domaine, l'autonomie du politique. Il en va du politique comme de la liberté, un ordre de nature à l'intérieur d'un ordre de grâce. Le principe et le fonctionnement sont identiques. La politique est, du point de vue chrétien, une œuvre humaine, aussi loin que possible de toute tentation théocratique. L'articulation entre nature et grâce semble toutefois plus délicate à mettre en place que la liberté personnelle, parce que la politique sollicite, au nom du bien commun, la construction d'un ensemble de responsabilités et d'autorités intermédiaires, donc aussi plusieurs degrés et facteurs de prescription et d'obéissance. Je ne conserve ici qu'une question, parce qu'elle reste débattue dans ce contexte. Selon Aristote, le citoyen est comme la partie d'un tout, et sous ce rapport, il est soumis au tout dans la politique. Conception qui, d'ailleurs, a donné lieu à des reprises parfois contestables au début du XXe siècle, pensant à Maurras. Selon Thomas d'Aquin, ce qui précède sur la soumission de la partie au tout reste vrai, mais sous un rapport seulement, et moyennant une conception affinée de la responsabilité personnelle. Car, comme l'a relevé récemment le père Daguet dans un article sur saint Thomas et la politique, je cite deux textes de saint Thomas, deux petits pavés, premier pavé, « L'homme n'est pas ordonné dans tout son être et dans tous ses biens à la communauté politique, c'est pourquoi tous ses actes n'ont pas forcément mérite ou démérite envers cette communauté. Mais tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut, l'homme doit l'ordonner à Dieu. » C'est pourquoi tout acte humain, bon ou mauvais, a un mérite ou un démérite devant Dieu, autant qu'il réalise la notion d'acte. Deuxième texte. Le bien de l'univers est plus grand que le bien d'un individu, s'il s'agit d'un même genre de bien. Mais le bien de la grâce dans un seul individu l'emporte sur le bien naturel de tout l'univers. Par conséquent, selon saint Thomas, quelque chose de l'homme échappe à son ordination à la communauté politique. Son autre ordination, plus élevée et plus ultime, à Dieu. J'en tire cette remarque. Le chrétien en politique est à la fois moins et plus que la partie d'un tout. Il est donc aussi moins attaché à l'ordre terrestre qu'un athée qui mettrait toute la noblesse de l'homme dans le service du bien commun, seul moyen d'accéder pour lui à la fois à sa propre humanité et de laisser une trace dans l'histoire. Une certaine idée de la chrétienté devrait découler de cette désarticulation, une idée en quelque sorte plus libre des attaches terrestres, alors que souvent la chrétienté s'est trop souvent clouée au sol du pouvoir politique. D'où la question. Quelle est la chrétienté véritable ? La géographie humaine et politique ou bien la population de l'Église ? Troisième domaine, l'identité de la laïcité. La laïcité est le fruit d'une transformation de l'autonomie de la liberté en indépendance. Est-elle pour autant une rupture de l'ordre social par rapport à celui de la Providence ? Il convient de nuancer le propos. N'est un secret pour personne la volonté de rupture avec l'Église catholique, en quelque sorte consubstantielle à la laïcité. L'ordre politique se déclare désormais affranchi de toute référence à l'Église et même au christianisme. Au refus de la dépendance s'ajoute l'effacement de l'origine. Pour autant, la sécularisation moderne est aussi une fille de la chrétienté, une fille prodigue, mais qui ne saurait dissimuler ses traits. Rompre les liens entre deux ordres, temporel et spirituel, suppose que ces ordres existent, qu'ils aient été distingués. Leur distinction est le propre du christianisme. De ce fait, l'effacement sur fond de séparation est-il une neutralité ou bien un engagement ? La neutralité religieuse de l'État est proclamée et elle est réalisée pour l'essentiel dans les affaires courantes. Cependant, sous la neutralité perce l'antagonisme, non seulement du fait de réactions antichrétiennes aussi épidermiques que structurelles, auxquelles les chrétiens se sont habitués, peut-être trop, jusqu'à plier l'échine en toutes circonstances, mais aussi du fait d'une disparité de traitement qui donne parfois à réfléchir. Par exemple, certaines particularités alimentaires sont permises dans les écoles ou les entreprises aux musulmans au nom de la diversité et refusées aux chrétiens au nom de la laïcité. La dissymétrie trahit à la fois un atavisme antichrétien, l'ignorance de la structuration des autres religions et aussi des religions tout court. Le statut de la discipline alimentaire n'est pas le même chez les chrétiens que chez les autres. Mais surtout du fait du statut ambivalent de la laïcité elle-même. Elle est nativement chrétienne et ne parvient ni à se débarrasser de cet ADN, ni par conséquent à s'adapter à d'autres situations. C'est parce qu'elle entre dans le cadre du christianisme que la laïcité ne cesse de chercher son identité et risque de passer à côté de la gestion des religions. Un politique formé à la laïcité a appris à gérer les situations de chrétienté, pourrait-on dire. La laïcité a été votée par des catholiques, pour des catholiques, contre des catholiques. Ce politique est donc, sans le savoir, dans ses meubles. Il s'imagine que la raison, entendons, la raison sans la foi, est le préalable à toute foi possible. Chaque religion se présentant alors comme les options d'un même modèle de voiture, allume-cigare, capot ouvrant, siège en cuir ou non. Nous n'avons donc pas quitté la question de l'articulation entre nature et grâce, nous sommes au contraire au cœur du problème dans son acception actuelle. La laïcité se présente comme une nature précédant la grâce et la laissant en option. Deux remarques sur ce cadre interprétatif. De la sorte, autant la grâce que la nature sont ainsi déformées et rabotées. Une grâce qui n'intervient qu'après la nature constituée devient superfétatoire ou bien réduite au domaine de la piété. Et de même, une nature ainsi considérée avant toute considération théologique se croit complète, elle ne l'est pas. D'un point de vue chrétien, la nature n'est totalement nature que dans et sous la grâce. En réalité, la laïcité est l'arrière-petite-fille d'un concept de théologien, comme souvent, celui de nature pure, abstraction célèbre des théologiens de la Renaissance. Le père de Lubac l'avait dit. Nous payons nos propres pots cassés. Seconde remarque, si la laïcité, dont le modèle français est sur ce point exemplaire, se présente comme l'œuvre d'art dont on a enlevé le tableau catholique, mais dont on a conservé le cadre, elle risque de ne pas être adaptée pour l'islam. L'islam n'a pas la même théologie de la providence. Il ne distingue pas de cette façon temporelle et spirituelle. Il ne distingue pas grâce et nature, pourrait-on dire. Il n'envisage pas de nature seule, entendons une vie sociale sans Dieu. La laïcité peut-elle répondre adéquatement aux réquisites des musulmans qui sont autrement articulés ? Il est à craindre que non, sur le principe. Elle ne le pourrait qu'à la condition de prendre en compte les religions plutôt que de les nier et de les prendre en compte selon leur respective structuration théologique. Il nous faudrait une laïcité théologienne, en d'autres termes. Malheureusement, la laïcité est souvent ignorante, sans doute parce qu'elle reste chrétienne, justement. Elle aussi, comme l'Église, elle se croit chez elle. Je plaide donc pour une laïcité théologienne, neutre, mais instruite. C'est possible à trois difficultés près. D'abord, le manque d'habitude et même de sympathie. Ensuite, le bouleversement du modèle natif en fusée à deux étages, nature puis grâce. Il faudrait distribuer les choses autrement. Enfin, la reconnaissance par la laïcité de son propre caractère chrétien, ou du moins issu du modèle chrétien, ce qu'elle n'aime guère concéder. Mais sans cela, au-delà d'une recherche de paix sociale et de communauté démocratique, je ne vois pas comment l'État laïque peut faire face à des questions qui n'ont pas été posées pour lui et dont il n'a pas l'équipement intellectuel de sa résolution. En troisième et dernière partie, il nous faut revenir à la caractérisation d'une chrétienté de conviction, la quatrième donc. Avouons-le, les chrétiens ont souvent consenti, malgré eux, aux métamorphoses de la chrétienté, notamment aux restructurations, pour parler le jargon du licenciement, de la politique. Parfois, ils ont été prophètes et parfois non. La perte des États pontificaux a causé la mort de nombreux zouaves français, comme l'atteste l'inattendue comtesse de Ségur, parfois très engagée politiquement, mais elle fut un bien pour l'Église. Délivrée de la gestion politique, débarrassée des compromis et même des compromissions qu'entraîne un État catholique, en témoignent toutes les Tosca et tous les barons Scarpia, l'Église s'est envolée sur les ailes d'une autorité spirituelle et morale universelle. Est-ce à dire que la chrétienté doit devenir seulement invisible et non plus visible, en une sorte de recul de type protestant des structures et du mental catholique? Non, car la chrétienté, de ce point de vue, n'a pas à sortir de la religion, demeure son rôle de médiation, non seulement du Christ, mais de l'Église et de la civilisation. Il me semble donc que non, et je propose quelques éléments. Conviction, tout d'abord, signifie ici, d'un terme faible, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur, un ensemble théorique et pratique qui comprend une fondation, la nécessité pour les chrétiens de savoir qui ils sont, pourquoi, comment, acquis culturel qui est loin d'être préservé, et aussi de reconstituer les liens religieux, sociaux et humains d'une civilisation qui fut chrétienne et qui inspire toujours les cultures du fait même de l'incarnation. Dominique Ponneau, qui fut directeur de l'école du Louvre, proposait à ses élèves de master la description analytique d'un tableau. Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est un type avec des ailes dans le dos qui est face à une minette. C'était une annonciation, bien sûr. Deuxièmement, une confrontation, la nécessité pour les chrétiens de devenir partenaires de la culture, d'argumenter et de débattre, d'être créatifs et moteurs, plutôt que les éternels suiveurs qu'ils sont devenus, pasteurs autant que laïcs. La confrontation inclut la maîtrise de leur propre religion, la maîtrise de la fondation religieuse de la laïcité et, autant que faire se peut, une connaissance distincte des autres religions, plutôt qu'un amalgame sans vérité, exigence ni respect. Monsieur Alain Besançon signale la fascination périodique et atavique des chrétiens pour l'islam. Un coup d'œil sur le passé montre, dit-il, qu'une église malade passe volontiers à l'islam. Enfin, une évangélisation. La dynamique d'une proposition explicite du message et de la personne du Christ. Proposition qui va de la mission à la conversion, sans contrainte, mais qui pense encore à contraindre, sans timidité. La sécularisation a appris aux chrétiens l'effacement en tout domaine et la route est longue de la mise en place d'une dynamique de proposition. Conviction signifie par conséquent la prise en compte d'une situation nouvelle de minorité, situation qui commence tout juste à modifier les comportements. L'entre-deux est difficile entre la majorité silencieuse défunte et la minorité agissante actuelle. Le milieu risque d'être une minorité silencieuse. Si c'est le cas, alors oui, la chrétienté est finie, elle se meurt, elle est morte. Sinon, une vitalité nouvelle peut naître d'un retour aux fondamentaux et à la condition que de tels fondamentaux soient toujours à l'œuvre. Cette œuvre des fondamentaux, Madame Del Sol l'appelle la capacité de la matrice à réengendrer, et M. Rémy Brague fait du christianisme, par rapport à la culture européenne, moins son contenu que sa forme. Matrice et forme. Matrice, ça m'a fait un peu sourire d'ailleurs, est un principe féminin. Forme, en tant que principe de détermination et d'actuation, est plus masculin. Mais les deux caractérisations désignent le même type de fondation entre donation d'essence et perduration de l'existence. Je voudrais prolonger, illustrer, achever ces considérations sur l'évocation des merveilleux exposés d'Étienne Gilson sur l'idée de chrétienté, qui ne sont pas les plus connus, car ils sont dispersés dans des articles aujourd'hui introuvables, qui sont en cours d'étude et qui seront bientôt publiés dans, comme premier volume des œuvres complètes chez Vrin. Je conserve quelques idées gilsoniennes, je les énonce simplement. Premier point, C'est lui qui parle. Où ai-je connu la chrétienté ? Le chrétien, partout où se trouve une paroisse, est en terre de chrétienté. Partout où l'amour de Dieu rompt les barrières des races et des classes, là aussi est la chrétienté. Un peu plus loin, dans cette église de Chicago où il faisait bon et où rien ne troublait le silence, où était-on ? Ni en Amérique, ni en France, ni en aucun point géographique du monde, mais on y était bien, car on y était chez soi. On était en chrétienté. 1945. Deuxième point, le rêve d'universalité de l'université. Le vieux rêve de l'université de Paris, qui fut d'abord le rêve de l'Église, habite encore aujourd'hui chaque cerveau français. Penser le vrai pour l'humanité entière, qui s'organise sous la contrainte même que lui impose l'acceptation du vrai. 1942, le fameux pèlerinage du Puy. De même, dit-il ailleurs, si l'université de Paris se tait, il se fait un grand silence dans toute la chrétienté. L'idée de fond, le moyen terme, si l'on veut, est qu'il y a, dit Gilson, chrétienté où il y a pensée chrétienne. Citation, il y a chrétienté où il y a civilisation chrétienne et il y a civilisation chrétienne là où il y a la pensée chrétienne. Autre article des années 40, les intellectuels dans la chrétienté, Rome 1947. Évidemment, nous sommes dans l'après-guerre, il se met à y croire et dans ces années-là, il écrit plusieurs articles sur cette question. Les choses vont se gâter rapidement, notamment à cause de la guerre froide et de ses propres ennuis sur la question de la neutralité. Toutefois, troisième point, Gilson précise lui-même, en tant qu'historien de la philosophie médiévale, combien le rêve d'un retour au Moyen-Âge est illusoire. Il faut une chrétienté moderne, différente, dit-il, dans ses modalités pratiques de la chrétienté médiévale. Quatrièmement, une chrétienté moderne n'est cependant pas à concevoir, selon lui, comme devant se séculariser et renoncer à l'explicite. Maritain parlait à la même époque de chrétienté séculière. Et curieusement, Gilson, me semble-t-il, prend un petit pas de côté par rapport à Maritain. Gilson disait qu'il faut que les chrétiens se contentent d'agir dans la société comme chrétiens. Et Gilson ajoute, non, pas seulement comme chrétien, mais en tant que chrétien. Comme si Gilson, l'universitaire républicain, se faisait en réalité plus engagé que Maritain, l'apôtre. Sur ce point, il diffère à front renversé. La distinction de Maritain venant par ailleurs de ce grand livre que reste « Humanisme intégral », dont le quart de sa réalisation nous comblerait d'aise par certains points. Cinquièmement, enfin, la dernière idée, peut-être la principale pour Gilson et un peu aussi pour cet exposé, qui résume tout mais ne règle pas tout, loin s'en faut, est celle qui conclut le livre « Les métamorphoses de la cité de Dieu ». L'Église est la seule société dont l'essence même soit d'être chrétienne, l'Église. S'il existe d'autres types de sociétés qui prétendent au titre de chrétienne, toutes présupposent l'Église, qui n'en présuppose elle-même aucun. Elle est la société chrétienne intégrale, suffisante à elle-même et complète par définition. La leçon qui se dégage de l'histoire qu'il a récapitulée dans son livre est qu'elle, l'Église, comme chrétienté, n'est pas métamorphosable. Toute tentative pour en usurper le titre et la fin porte malheur aux sociétés humaines qui prétendent la réaliser sur Terre. Le trait commun à ces tentatives est de substituer au lien de la foi un lien humain, tel que la philosophie ou la science, dans l'espoir qu'il s'universalisera plus aisément que la foi et qu'on facilitera par là la naissance d'une société temporelle universelle. L'opération, continue-t-il, se solde régulièrement par un échec. Il importe de le savoir et de le dire en un temps où tant d'esprits généreux s'efforcent de donner un sens à des notions aussi importantes que celles d'Europe et d'humanité. Fin de citation. En somme, toute autre chrétienté que l'Église en est la sécularisation et de ce fait, elle est une chimère spirituelle. Pourtant, après Gilson, la question demeure de la nécessité d'un modèle politique. Il faut bien se mettre d'accord sur quelque chose dans l'ordre naturel, surtout si l'ordre surnaturel est nié et même s'il est accepté. Pour les chrétiens eux-mêmes, a fortiori pour ceux qui ne le sont pas, et avec qui les chrétiens doivent gouverner aussi bien que débattre. Que faire ? Conclusion. Le 3 avril 1852, Alexis de Tocqueville, président de cette académie, prononçait un discours où il invitait à distinguer dans la politique deux parts qu'il ne faut pas confondre, l'une fixe et l'autre mobile. La part fixe est celle de la nature même de l'homme, dit-il. À quoi un Gilson ajouterait la grâce, les promesses de la vie éternelle offertes par le Christ à Saint-Pierre. Grâce et nature président à l'histoire de telle sorte que la chrétienté hantée sur l'Église ne change pas dans son principe. Le comportement du chrétien en découle. Corneille fait dire à son martyr Polyeucte, un chrétien ne craint rien, ne dissimule rien, aux yeux de tout le monde, il est toujours chrétien. La part mobile, maintenant, qui est, selon Tocqueville, l'art du gouvernement, relève de la prudence. Alors, prudence naturelle et surnaturelle. La chrétienté peut alors souffrir bien des mésaventures. Certaines formes de chrétienté voient ainsi leur fin, mais non pas la chrétienté sous le rapport où elle s'identifie à l'Église terrestre. Demeure son rôle de médiation fondé sur l'incarnation. En 1805, Napoléon, rétablissant l'Institut, dissolvait, je crois, la présente Académie, dénonçant dans les moralistes et les politologues qui la peuplaient alors, citation, des rêveurs, des phraseurs, des métaphysiciens. Et encore, il n'y avait plus de théologiens alors. Rêveurs, fustigeons-les avec lui. Phraseurs, ils se condamnent eux-mêmes. Métaphysiciens, en revanche, heureux sont-ils d'asseoir l'homme dans la société et de considérer le rôle civilisateur de la chrétienté pour en étayer les principes. Je vous remercie.
Éclairé sur cette question qui à mon sens, et c'est un petit peu ce que j'avais pointé en commençant le programme de cette année, à mon sens, c'est très important, puisque peut-être que pour la première fois, on a vraiment le sentiment que le christianisme n'inspire plus, enfin, en tout cas, plus du tout comme avant, nos sociétés, aussi bien au point de vue juridique que moral et autres. Ce sont les lois dites sociétales. Vous avez cité le très bon texte de Mounier qui a été réédité par Guy Coq là, tout récemment. Et cette question est complètement à l'ordre du jour. Vous nous avez vraiment éclairé là-dessus et je vous en remercie. Je me permets de poser une petite question avant de donner la parole aux cinq confrères qui ont demandé la parole. Vous avez parlé d'une bérésina, c'est effectivement ça, vécue par les chrétiens, fin de la domination. Je voudrais savoir, je voudrais connaître votre sentiment sur ce que je ressens moi-même là-dessus, à ce propos. Est-ce que ce n'est pas une chance, au fond ? Est-ce que la puissance n'est pas contradictoire complètement avec la religion ? Est-ce que le fait que nous soyons si faibles et que nous ayons vécu ce que vous appelez une bérésina, je ne critique pas cette expression, est-ce que c'est pas ça qui nous empêche de produire des groupes capables d'aller lancer des pétards sous les pieds de ceux qui nous caricaturent? Vous voyez, au fond, c'est nécessité fait vertu. C'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est parce que nous sommes faibles. Peut-être que nous sommes devenus plus ou moins tolérants. Vous savez, il y a que les faibles qui sont vraiment tolérants. Enfin, c'est triste à dire, mais enfin, écoutez, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors, je donne la parole à mes confrères pour commencer, à Monsieur d'Espagna.
Merci, Madame, Monsieur, Madame le Président. D'abord, je voudrais dire aux conférenciers que j'ai été très intéressé par tout ce que vous avez dit. Au début de votre exposé, vous avez évoqué la notion de métamorphose de la chrétienté. Alors, vers la fin, vous avez dit que Maritain n'appréciait pas cette idée, mais enfin, bon, on n'est pas obligé de suivre Maritain. Et on peut se demander s'il n'y aurait pas possibilité de métamorphose ou de renouvellement de la chrétienté sans véritable métamorphose du christianisme lui-même. Et comme je sais que vous vous êtes vivement intéressé à la théologie négative, je voudrais vous demander, enfin c'est une question un peu personnelle, si vous ne pensez pas que peut-être cette théologie négative qui a été extrêmement étudiée par saint Thomas et par bien d'autres, et qui a donné naissance à de grands mystiques, si cette théologie négative, donc, qui fait partie du christianisme, mais qui le voit sous un angle très différent et qui résout, semble-t-il, quand même, pas mal de difficultés conceptuelles qui sont des obstacles pour quelqu'un qui, venant de l'extérieur, étudie le christianisme. Si, donc, cette théologie négative ne serait pas une solution, justement, pour un renouvellement de la mentalité chrétienne, si vous voulez, sans, je répète, sans métamorphose du christianisme, en restant dans le cadre de ce qui est peut-être le plus profond dans le christianisme. Merci, merci.
Merci, Madame le Président, et merci, mon père, de vos propos à la fois simples et profonds. On n'est pas toujours habitué dans ces murs à entendre des choses profondes et simples à comprendre. Pas toujours. Je ne dis pas toujours. Non, ça arrive, ça arrive. Dans la première partie de votre exposé, ai-je mal compris, vous avez, me semble-t-il, dit que la chrétienté n'a jamais vraiment résolu sa relation à la laïcité. Et puis après, dans la deuxième et la troisième partie, vous avez bien montré que la laïcité, au sens moderne du terme, est intrinsèque au christianisme. C'est « mon royaume n'est pas de ce monde, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais comment expliquer que, finalement, le catholicisme, vous en avez très bien parlé, a réussi à résoudre ce problème? Et aujourd'hui, bon, surtout depuis la perte des États de l'Église, comme vous l'avez rappelé, donc la question est, me semble-t-il, réglée. Encore hier, la déclaration, le texte du cardinal 23 était très clair à ce sujet concernant les événements de la semaine dernière et tout à fait lisible par des non-croyants. Mais comment se fait-il que l'orthodoxie ait tant de mal encore aujourd'hui à résoudre cette question, et même un certain nombre d'églises protestantes, pas la majorité, mais un certain nombre d'églises protestantes qui existent aux États-Unis ou ailleurs, en Amérique latine ou en Afrique, et qui n'ont pas du tout l'intention de considérer qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il y a une véritable... Moi, je suis géographe et j'observe cette césure quand même très, très importante en Europe, qui est en train de disparaître entre l'Europe catholique et l'Europe protestante, mais qui n'a pas du tout disparu entre l'Europe catholico-protestante, d'une part, à l'ouest, et l'Europe orthodoxe à l'est.
Ah oui, d'accord, pardon. Merci, Monsieur Béchler.
Merci, Madame la Présidente. J'aimerais vous adresser une question dont je ne suis pas sûr que je suis capable de la formuler clairement. Mais je vais essayer tout de même. Je partirai de distinctions que vous avez posées au départ sur les différents sens du mot « fin ». Ce n'est pas tellement le mot, c'est le concept de « fin ». Et l'on peut distinguer au moins trois sens qui sont très substantiellement différents. Vous l'avez dit, le terme, c'est-à-dire ensuite c'est fini, si vous voulez. L'accomplissement, on ne peut pas aller au-delà de l'explicitation, quelque chose comme l'antéléchie de la chose. Et l'aboutissement, c'est-à-dire un état définitif dans lequel se retrouve un développement qui a pris un certain temps pour parvenir à cet état. si l'on applique ces trois sens au problème que vous avez soulevé, à savoir les relations entre la chrétienté, entre la grâce et la nature. Et cela pourrait donner peut-être, mais c'est une pure hypothèse heuristique, ceci, accomplissement d'abord, le christianisme est parvenu à une explicitation à peu près accomplie de la révélation. Là, on prendrait, si vous voulez, la théologie et l'exégèse de Newman comme modèle, en posant, si vous voulez, qu'il y a peu de chances que quelque chose de radicalement nouveau en termes de révélation apparaisse à l'avenir. Deuxièmement, on peut plaider l'aboutissement, c'est-à-dire que l'évolution des sociétés, en particulier européennes, ont atteint un état, d'aboutissement pour le christianisme qui est en même temps un terme, à savoir le terme du modèle constantinien. On est sorti ou on sortira du modèle constantinien et cette sortie est un aboutissement. Alors, si on admet cette hypothèse, je reconnais que c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous me suivez. Je vous félicite si c'est le cas. La question qui se pose pour le sociologue, quel est le type de sodalité et de sociabilité qui correspond à cette situation de terme d'accomplissement et d'aboutissement? Et on pourrait retrouver les problèmes qui ont été, je crois, un peu oubliés, qui ont été étudiés, posés par Trulsch, sur les différentes sodalités et sociabilités correspondent à la révélation chrétienne. Et je me demande si une réflexion, alors là, qui ne serait peut-être pas simple, mais qui pourrait être profonde sur, je le répète, la sodalité, c'est-à-dire les groupes, si vous voulez, et la sociabilité, c'est-à-dire les réseaux et les relais, qui sont susceptibles de correspondre, je le répète, à cet aboutissement et cet accomplissement du christianisme. Merci.
Merci. Bernard Bourgeois.
Merci, Madame le Président. Mon père, quel professeur vous êtes. Vous avez, comme l'a dit Jean-Robert Pitt, dit des choses simples et qui étaient en même temps profondes. Et puis vous n'avez pas fait de phénoménologie. C'est si rare. Je formulerai, Madame le Président, un souhait, si vous le permettez. C'est que tous les théologiens fassent comme vous, mon père, et vous ressemblent. Et puis, j'ai un autre souhait. Si vous prêchez aussi bien que vous enseignez, je vais me précipiter pour aller vous écouter.
À Notre-Dame de Paris, bien sûr.
Oui, bien sûr. Merci de me donner cette adresse. J'ai deux questions à vous poser. Une concernant le passé et l'autre l'avenir. Pourquoi la chrétienté qui disposait, c'était sa spécificité, de la doctrine chrétienne ou christique, pourquoi la chrétienté a-t-elle mis si longtemps pour arriver à savoir, découvrir et à tenter de pratiquer son essence, à savoir la séparation du spirituel et du temporel, c'est-à-dire la distinction, plus que la distinction, entre Dieu et César, qui était quand même un élément majeur de la doctrine chrétienne. Pourquoi a-t-elle mis si longtemps pour en venir à ce dont vous avez répété que c'était vraiment le lieu et l'essence du christianisme, la laïcité? La laïcité est chrétienne. La laïcité est dans le cadre du christianisme. Alors, la question que je vous pose est simpliste. On peut mettre en avant beaucoup de raisons, mais j'aimerais savoir quel a été pour vous le facteur ou la raison qui a empêché la chrétienté de pratiquer la laïcité dont vous avez répété quelle était son essence. Qu'est-ce qui a empêché cette réalisation de son essence? L'avenir. Il s'agit, dans une certaine mesure, pour le chrétien de savoir qui il est. Et vous avez dit qu'il fallait que le christianisme soit de plus en plus théologique, que la chrétienté s'assume de façon théologienne. Alors, comment peut-on y arriver? Parce que c'est un objectif extrêmement difficile. Il s'agit au fond de dépasser la culture en se faisant théologien. Et parce que c'est le grand modèle. Le grand modèle, c'est saint Thomas d'Aquin. Faire de la théologie, c'est nécessairement faire de la philosophie. Et je crois que vous avez raison, la théologie et la philosophie, ça n'est pas un luxe. C'est sans doute une nécessité dont l'histoire montre qu'elle est très urgente. C'est une nécessité qui s'impose à la culture, mais c'est un objectif peut-être surhumain. C'est pas pour autant qu'il ne doit pas rester l'objectif essentiel. Au fond, le vrai laïc, si je vous ai bien compris, est le bon républicain. Ne peut être que le bon chrétien, c'est-à-dire celui qui s'efforce de réaliser davantage le christianisme dans la chrétienté, c'est-à-dire d'endoctriner sa propre vie. Ça, c'est un objectif, si vous voulez, extraordinairement difficile. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être l'objectif final. Et il y a donc des enseignements tirés de ce que vous avez dit quant à la manière de concevoir l'éducation et finalement l'école dans laquelle on veut voir, c'est vrai, le berceau du caractère républicain, de la démarche républicaine. Ma question plus précise, la seconde question, est la suivante. Est-ce que l'Église actuelle, l'Église catholique, est-ce que l'Église actuelle prend le chemin de cette nécessité pour le christianisme de pratiquer sans réserve, sans aucune limite, la tâche de la pensée à travers l'effort théologique ou l'effort philosophique? Voilà les deux questions que je voulais vous poser. Merci, Madame la Présidente.
Merci. Mes chers collègues, j'ai encore 5 questions. Donc, si chacun d'entre vous pouvait être... 6 questions. Si chacun d'entre vous pouvait être assez bref pour laisser du temps à notre conférencier, Alain Besançon.
Merci, Madame le Président. Oui, j'ai reconnu dans l'exposé de Thierry Brecht, là, le vrai fils de saint Thomas. Hein, c'est d'une clarté, c'est parfait, en peu de mots, on ne peut pas dire le maximum de choses. Et en même temps, tout est soumis à la devise de l'ordre dominicain, Veritas. Maintenant, comme simple historien, je voudrais faire 2 petites remarques. La première, c'est est-ce qu'on est entièrement débarrassé d'un mythe qui, au fond, n'est pas très ancien, qui date du début du 19e siècle, le mythe du Moyen-Âge chrétien. Hein, nous savons très bien, maintenant, les études historiques l'ont montré, qu'au Moyen-Âge, tout le monde était, comme aujourd'hui au moins, tout le monde était païen. Hein, tout le monde était païen et que le christianisme n'affectait qu'une petite croûte, disons, du pouvoir et de l'Église, n'est-ce pas? Mais que c'était peu de choses quand même. Peu de choses, et dans l'intérieur des cœurs, on restait païen. Et même d'une certaine façon, le protestantisme est une vaste protestation contre ce paganisme qui allait avec l'Église catholique. Ce qui, d'ailleurs, a été précieux, parce que l'Église catholique conservait non seulement le paganisme habituel, le paganisme populaire, mais également le paganisme savant, le paganisme de l'art, le paganisme de la philosophie, le paganisme de la réflexion. Et c'est ça qui a été très touché par la réforme protestante qui s'est débarrassée de la pensée antique, qui s'est débarrassée également de l'art antique, hein, qui n'a pas été stérile pour autant. Peut-être qu'il faut nuancer cette idée de la partie de la chrétienté concernant la fusion et la séparation. En fait, le monde catholique est un monde, paraphraser une phrase célèbre, nous sommes des monothéistes modérés. Et nous ne sommes pas modérément monothéistes. Hein, c'est bien cela, hein, c'est à la différence de l'islam. Alors, la deuxième remarque, c'est que vous avez oublié le monde américain. Complètement. Hein, le monde américain qui présente cette chose extraordinaire, qui est la première fois dans l'histoire du monde, c'est un peuple religieux, un peuple profondément religieux, qui tient passionnément à la première constitution athée du monde. Et ça fait problème aux États-Unis depuis le moment où la Constitution a été votée. Une Constitution athée, qui ne s'est pas mise sous la protection du Tout-Puissant. C'est « We, the people of United States ». Hein, c'est là l'origine du pouvoir. Et on a refusé les prières qu'habituellement allaient avec le début de la Constitution. Alors, en même temps, ce peuple profondément religieux tient à ce que la religion soit respectée. Vous avez vu que hier, le New York Times a refusé de prendre les dessins de Charlie Hebdo qui lui étaient proposés, dans la mesure où ces dessins n'étaient pas pour lui des dessins satiriques, mais c'était des dessins d'insultes, c'était des dessins insultants. Or, se moquer de Dieu, se moquer de l'Église, de Jésus, etc., ce n'est pas ni aux États-Unis. En tout cas, ça choque très profondément. Et alors, ça repose un peu le problème de la laïcité, qui se présente différemment aux États-Unis et en France, quand même. L'Église, bon, d'abord, la laïcité, c'est pas un terme tellement américain, hein, ça se prend. Bon, oui, quand même, laïcité ne veut pas dire ça. Hein.
Sécularisation.
Oui, enfin bon. Mais c'est pas pareil, parce que quand même, l'Église, est-ce qu'elle est visible ou est-ce qu'elle est invisible? Les deux, aux États-Unis. Elle est invisible parce qu'actuellement, ils chassent les crèches, le mouvement des crèches. Aux États-Unis, quand même, les crèches ne pourraient pas apparaître dans les mairies, dans les écoles, comme ça. Parce qu'au nom d'une séparation beaucoup plus stricte, beaucoup plus nette qu'en France entre le laïc entre le visible et l'invisible de la religion. Alors, bon, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, mais alors le danger de cela, c'est une dédogmatisation générale du christianisme, au côté protestant et un peu du côté catholique aussi, et le danger de se faire manger par l'humanitaire, mais ça c'est un danger général de toutes les religions, et spécifiquement aux États-Unis, le danger congrégationaliste qui est rampant et qui affecte les catholiques aussi. Merci.
Merci. Monsieur Soutou.
Madame le Président, étant donné que je voulais dire, mais infiniment moins bien exactement ce que vient de dire mon ami Alain Besançon, je préfère laisser davantage de temps à la discussion et aux confrères. Merci beaucoup.
D'accord. Madame Bastide-Brugère.
Merci, Madame le Président. Écoutez, ma question rejoint celle qu'a posée Monsieur Pitt, celle de Monsieur Béchler et d'autres. En somme, je voulais vous demander, mon père, dans quelle mesure vous estimez que l'analyse tout à fait admirable que vous avez proposée s'appliquait aussi à ce qui est contenu dans la chrétienté et le christianisme, mais qui est rassemblé dans les églises orthodoxes, dans les églises orientales, et aussi dans la multiplicité des églises protestantes. Parce que votre analyse s'appuie malgré tout sur le catholicisme romain et je voudrais savoir vous-même jusqu'à quel point vous pensez que cela s'applique à l'ensemble de la chrétienté et du christianisme.
Merci. Monsieur Pierre Ménard.
Merci, Madame la Présidente. Je n'ai, moi aussi, surtout qu'à reprendre les éloges qui ont été adressés à notre communicant d'aujourd'hui. Je dirais surtout qu'il a tracé un programme complet de notre année, un peu différent de celui qui nous a été présenté tout à fait au départ. Mais alors, je me suis, à ce moment-là, livré à un jeu. Est-ce qu'on peut trouver autre chose? Est-ce qu'on peut trouver autre chose? Il se trouve que les nombreuses distinctions qui ont été avancées se présentent de deux par deux, en général. Nature et grâce, c'est le type. Je dirais que c'est l'exemple d'un parfait rationalisme. Le parfait rationalisme procède par deux. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver deux autres termes? Il y en a un qui me paraît manquer. C'est la distinction entre le profane et le sacré. Et le mot sacré, me semble-t-il, n'est jamais apparu dans votre communication. Et c'est un mot qui est très différent de ceux qui ont été évoqués en même temps. Parce que le sacré, ça touche le matériel. Alors que le spirituel, c'est spirituel, comme l'indique le terme. Et d'autre part, il y a peut-être, j'aurais pour ma part, ajouté davantage d'importance à la distinction entre l'humanisme et le christianisme. L'opposition humanisme et christianisme paraît capitale pour faire une philosophie complète, en même temps que pour faire une théologie complète. Et donc, alors, j'aurais une seconde petite question, mais elle peut être très brève. C'est, est-ce que non seulement on peut choisir deux autres modèles, mais deux autres exemples, mais est-ce qu'on peut pas en choisir trois? Et en effet, il y en a trois. Et mon maître Pascal est celui qui pratique les trois. Il y a le matériel, il y a l'intellectuel, il y a le spirituel. Et à ce moment-là, on peut dire que beaucoup de problèmes changent complètement de nature et s'approfondissent terriblement. Bon, je pourrais ajouter encore d'autres exemples, mais ce sera pour une autre fois. Merci.
Monsieur Tullard.
Merci, Madame le Président. Mon père, en 1802, vous n'auriez pu parler dans cette tenue et sur ce sujet devant notre académie, à l'époque classe des sciences morales et politiques. Les idéologues vous en auraient empêché. En 1811 encore, Chateaubriand, auteur du génie du christianisme, eut du mal à se faire élire à l'Institut. Or, mon père, c'est Napoléon, disciple de Rousseau, élève de l'abbé Raynal, qui supprima la classe des sciences morales et politiques à cause de son opposition au christianisme, et c'est lui qui imposa à l'Institut, comme successeur de Marie-Joseph Chénier, Chateaubriand. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Après Constantin, Clovis et Bonaparte, voyez-vous aujourd'hui un homme providentiel au sens de Bossuet qui redonnerait à la chrétienté ou au christianisme la place que, selon vous, ils ont perdue? Je vous remercie.
J'espère que vous vous sentez bien après une
très
question
bien.
Pareille.
Comme un taureau au moment de la mise à mort. Mais...
Nous avons encore une dernière question de Monsieur de La Rosière.
Oui, la question est la suivante. Nous avons vécu, mon père, depuis le début du XXe siècle, une histoire de violence, une histoire où le moteur de l'histoire était la mort, la destruction. Une histoire profondément antichrétienne, comme les écrits du père de Lubac auxquels vous avez fait allusion l'ont bien remarqué. Alors, la question que je pose est la suivante. Aujourd'hui, Michel Serres s'est fait l'apôtre de cette théorie. On est passé, depuis quelques années, à un monde dont le vecteur central n'est plus la recherche de la mort, malgré le terrorisme ambiant qui nous caractérise. Mais la philosophie fondamentale des sociétés humaines est une philosophie où l'on recherche l'éclosion de la personnalité humaine, de la liberté et de la d'une certaine forme de compassion. Ayant dit ça, je voulais vous poser la question suivante. Comme le christianisme est une religion qui est fondée sur un principe fondamental, c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ, c'est-à-dire l'amour du prochain. C'est ça le point central. Comment expliquez-vous qu'une religion dont rien, à mon avis, ne heurte ce que j'ai expliqué être le moteur plus récent de l'histoire humaine, rien ne le heurte. Il n'y a rien dans le message évangélique qui ne soit de la compassion, de l'inclusion, du respect de l'autre. Rien. Donc je me pose la question suivante, et j'aimerais que vous m'éclairiez. Comment se fait-il que l'Église catholique s'étiole et qu'il n'y ait pas davantage de monde dans les églises? Alors, est-ce que la modernité est profondément hostile à la révélation et à la foi révélée? Est-ce que c'est l'appareil de l'Église qui détourne les gens de ce message du christianisme? C'est une question que je me pose. Ou est-ce que les choses vont changer? Merci.
Xavier Darcos.
Oui, juste une dernière question. Je pensais qu'elle viendrait. N'y a-t-il pas tout un courant aussi, mon père, qui pense qu'il faut la fin de la chrétienté pour que revienne l'Évangile, en quelque sorte? Courant qui a été déjà commencé par des philosophes très noirs comme Kierkegaard, qui a été exprimé encore plus récemment par Paul Ricoeur. Au fond, il faudrait sortir de toute cette force morale, de pouvoir, de pompe, de décorum de la chrétienté pour que le message de l'Évangile ressorte. Est-ce que dans l'idée de fin de chrétienté, il n'y a pas aussi cela? Est-ce que cette idée mériterait d'être approfondie?
Merci. Bon, Père, vous avez une petite demi-heure pour répondre à toutes ces questions dans l'ordre qui vous arrange.
Si vous me laissez 3 jours pour les comprendre, d'abord, ça ira très bien. Pour revenir, madame, à votre première question, d'abord, la Bérézina n'est pas une défaite, contrairement à l'expression consacrée. C'est une splendide victoire dans la tourmente. Mais peu importe. Vous avez posé la question au fond de la faiblesse qui se fait vertu. Je pense que, pour une part, c'est vrai, ce qui a été plus d'une fois subi par les chrétiens a pu les aider, par accident ou de façon plus propre, à prendre davantage la mesure de ce qu'ils avaient à être, d'abord comme chrétiens et donc ensuite comme citoyens. Parce que, malgré tout, la clé du chrétien en politique, ce sera d'abord d'être chrétien, avant que d'être politique. Et je crois que tout est conditionné par là. Et donc, il y a beaucoup d'insuffisances, de fautes, de points obscurs dans le comportement social des chrétiens au cours des siècles, qui s'expliquent d'abord par le fait qu'ils n'étaient pas assez chrétiens, à titre personnel ou à titre de structuration collective. Et je crois qu'il faut... Et c'est toujours vrai aujourd'hui, simplement, il faudra attendre 2 siècles pour qu'il y ait des gens pour en rire. On pourrait commencer tout de suite sur certains points, je trouve. Mais... Donc, c'est sûr que les points de faiblesse qui leur ont été imposés ont pu, mais parfois non, les aider à comprendre mieux, un peu comme parfois dans une famille, un deuil de quelqu'un très proche aide à simplement à réfléchir, à rentrer en soi-même et à comprendre davantage qu'il faut faire autre chose de sa vie qu'un océan de paillettes. Bon, mais je crois qu'on peut pas en rester non plus à cette considération, parce que vous avez parlé de la fin d'une domination, mais peut-être faut-il distinguer quand même entre domination, pouvoir et simple présence. Enfin, la domination au sens négatif du terme, très certainement, et il y a eu des abus, mais ça, on en est sorti. Maintenant, tout pouvoir n'est pas pécamineux, tout pouvoir n'est pas domination, il est aussi responsabilité. Et après tout, tout le comportement chrétien n'a pas à faire abstraction non plus de l'exercice d'un certain pouvoir. Comme dans toute société, au fond, on tape tous contre les policiers jusqu'au jour où on en a besoin. Et on l'a vu encore ces jours-ci. Donc, fin d'une domination, à quel point de vue d'ailleurs? Au plan politique, ça, oui, ça c'est fini. Il y a eu des excès. Mais il n'y avait pas que des excès non plus. C'était aussi une manière de tempérer des choses qui auraient été bien pires sans cela. Mais il y a d'autres formes de pouvoir qui peut être simplement une influence intellectuelle ou l'influence de la charité ou quelque chose comme ça. Enfin, donc, je ne suis pas très sûr que le principe selon lequel plus on est affaibli, plus on est vertueux, soit juste. Parce qu'en plus, on peut être très faible et n'être pas vertueux. Et il y a même des points d'affaiblissement qui sont tels en général qui rendent les gens sauvages et barbares plus qu'ils ne les élèvent. Donc, je ne lirai pas de cette façon ces points, enfin ces idées ensemble. Plusieurs d'entre vous ont parlé, à juste titre, du rapport, disons, de la différence qu'il y aurait dans la comparaison à la chrétienté, de l'orthodoxie et du monde protestant. Alors, de manière globale, parce qu'il y a d'autres questions aussi qui portent sur ce genre de choses, mes connaissances historiques sont parfois très limitées. Vous voudrez bien me pardonner, il y a peut-être que sur les batailles napoléoniennes, où je pourrais faire front face à Monsieur Tullard. Là, oui, peut-être. Mais encore, c'est bien prétentieux. Mais pour le reste, ça risque de faire haut de tous côtés. Donc, je pense qu'en effet, la situation se présente très autrement, et sans doute pour plusieurs raisons. D'abord, l'orthodoxie, qui s'est appuyée elle-même longtemps sur l'Empire, quand même, sur l'Empire d'Orient, s'est mise un peu en retrait pendant des siècles, par rapport à la sécularisation, disons, occidentale, ou bien a été soumise à d'autres pouvoirs politiques. En Russie, nous avons un frère russe au couvent qui disait un jour, c'est sûr que c'est très simple, on finit toujours par obéir à quelqu'un, et si ça n'est pas à l'Église de Rome, ce sera à l'État. L'Église orthodoxe russe en a fait la démonstration éblouissante de servilité par rapport au pouvoir politique, et parfois dans des circonstances tout de même contestables. Mais peut-être parce qu'ils se sont tenus d'une certaine façon un peu en retrait des problèmes, je ne sais pas. Ça ne s'est pas posé de manière philosophique, de manière aussi aiguë que chez nous, mais je me trompe peut-être. Alors en revanche, chez les protestants, ça s'est posé de manière aiguë, parce que d'une certaine façon, la doctrine de la laïcité, enfin l'affranchissement de la raison par rapport aux structures ecclésiales, fait partie de l'héritage protestant, presque plus que catholique, d'une certaine manière. Et ça rejoint, je pense, plusieurs de vos questions ici. Je pense que la perte des médiations humaines dans le domaine du christianisme est constitutive du protestantisme. Pas de toutes, mais enfin de beaucoup. Alors que chez les catholiques, il appartient à la foi catholique intégrale, en quelque sorte, de conserver les médiations incarnées qui découlent de la double nature du Christ et qui découlent de l'incarnation de l'Église. Donc tout ce qui relèverait d'une perte de substance, en quelque sorte, des médiations, en effet, ont pu favoriser dans le monde protestant une laïcité parfois peut-être plus féroce que chez nous, ou en tout cas autrement posée. Bon, la culture allemande à la fin du 19e siècle, ou des choses comme cela. Alors, j'essaie de retrouver les questions, parce que elles sont loin. Vous demandiez quel type de sodalité et de sociabilité pourrait être possible pour les différents types de sens de fin. Quel type donc de groupe ou de réseau chrétien pourrait être mis à l'œuvre pour concourir à l'accomplissement du christianisme et donc pour œuvrer aux relations entre la grâce et la nature? Je crois que tous les groupes et tous les réseaux sont possibles, ils relèvent de l'inventivité des chrétiens, tant au plan culturel qu'au plan de la charité, car après tout, les chrétiens sont reconnus à cet ultime titre de la charité. Je ne crois pas qu'il faille en trouver tellement de nouveaux sous ce rapport. Il s'agit peut-être de trouver de nouveaux moyens de réaliser les mêmes choses. Mais enfin, si le premier principe du christianisme, que je compléterai, c'est d'aimer Dieu et son prochain, pas seulement le prochain, de ce point de vue, c'est adaptable à toute situation possible. Et tant qu'il y aura quelque part, géographiquement, un groupe de chrétiens pour s'aimer entre eux, et pour aimer leur prochain autour d'eux, il y aura une certaine forme de chrétienté. Et je pense, pour la question numérique que vous posiez aussi, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure aussi, s'il y a une sorte d'effacement aussi des structures chrétiennes de la société, c'est peut-être qu'il y a tout simplement moins de chrétiens, ou en tout cas, moins de chrétiens pour prendre la peine de s'en occuper. Car le principe le plus basique, finalement, qui préside à nos propos, c'est « se trouve-t-il quelqu'un pour s'en occuper ?» Au plan des principes, on peut tout imaginer, mais qui fait quoi ? Qui va consacrer quelque chose de sa vie, son métier, ou sa vie entière, ou une part importante de son activité, à mettre en place des réseaux, quel que soit leur contenu ? C'est un travail énorme, et peut-être sortons-nous... Nous sommes maintenant obligés de les endosser, parce que nous sortons d'une chrétienté assise numériquement, et je crois que nous n'avons pas fini d'en mesurer l'importance. Avant, il y avait des chrétiens partout. Maintenant, ça devient difficile. Pendant vos grandes vacances, pour trouver une messe le dimanche, il n'est plus du tout acquis, pour ceux qui seraient chrétiens entre vous, d'en trouver une dans le coin. Il faut l'avoir prévu comme l'hôtel de votre voyage. De la même façon, peut-être même pour faire construire votre maison de campagne. C'est inimaginable, d'une certaine manière, dans le service public qu'était l'Église jusqu'à présent, desservant un peu partout et de manière régulière le territoire. Sans difficulté pour les usagers. Aujourd'hui, on va complètement changer de monde de ce point de vue, sauf cruellement dans les plus grandes villes, celles qui en auraient en quelque sorte le moins besoin, car l'effet de concentration est par ailleurs plus fort. Donc là, il va y avoir un changement considérable de proximité qui va révéler le fait que les choses ne marchent pas toutes seules. Avant, les choses pouvaient marcher toutes seules parce qu'il y avait du monde partout et parce qu'il y avait beaucoup de clergé, finalement. Et malheureusement, c'est lui qui faisait tout, y compris des choses qui ne lui revenaient pas. Mais parce qu'il y en avait trop. Aujourd'hui, le remplacement, d'ailleurs, du clergé par les laïcs est un placement de rustine, souvent, c'est que ce sont les laïcs qui viennent à manquer, d'une certaine manière. Où sont-ils ? Sont-ils en nombre suffisant pour faire les choses ? Et là, d'une certaine manière, les chrétiens se rendent compte que s'ils ne mettent pas eux-mêmes les mains à la pâte, il n'y aura personne pour faire le travail à leur place, tout simplement. Et donc, les frontières actuelles de la chrétienté sont dans ma chambre, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Elles seront extensibles selon que chacun, finalement, des membres des communautés, au sens large, feront des choses ou bien n'en feront pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui relève du service public qui va profondément se modifier. On est encore dans une période de luxe, quoique déjà terriblement déclinante, mais on est encore dans le luxe. Les chiffres prouvent que dans 10 ans, on aura changé de monde. Donc, là, je crois qu'il y a quelque chose qui va se modifier en profondeur. Les choses ne se feront plus sans soi. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, Monsieur Bourgeois, la laïcité est l'essence du christianisme. Que la laïcité soit issue du christianisme, sans doute, qu'elle soit son essence même, je n'irai peut-être pas jusque-là. Enfin, en tout cas, elle ne l'épuise certainement pas, et je ne suis même pas sûr qu'elle lui corresponde tout à fait. Elle en est une... En tant que séparation, je crois qu'elle en est un écartement. En tant que distinction, elle lui appartient substantiellement. Et même dans le cas d'une simple distinction, elle ne la recouvrirait pas complètement, je crois. Donc, vous avez remplacé d'ailleurs le terme de distinction par celui de séparation. Très bien. Là, je vous suivrai pas sur ce point, même si je constate que c'est ce qui s'est passé. Mais je suis pas sûr que ce soit au bénéfice, finalement... de la situation actuelle, à titre amusant, on en vient à récupérer de manière laïcisée des phrases de l'Évangile de manière abusive, par défaut, je crois, par vide. Aimez-vous les uns les autres, par exemple. C'est une phrase du Christ qui n'a jamais été prononcée que par lui et qui est donc ou bien une intrusion scandaleuse de la prédication chrétienne dans la laïcité. Ou bien, au contraire, un élargissement à toute situation humaine possible de ce principe, mais c'est vraiment beaucoup trop demandé pour une société. Enfin, demander aux gens de s'aimer les uns les autres, c'est une chape de plomb, quand même. Enfin, qui d'autre que le Christ pourrait le demander pour des raisons de paternité commune? C'est beaucoup trop. La fraternité républicaine n'en demande pas autant. Elle a bien raison. L'amour, c'est quand même un peu plus. Donc, et en même temps, ça montre qu'on a besoin de quelque chose. Peut-être d'ailleurs que ce qui s'est passé hier montre, dans le contraste que je verrais, c'est une opinion et elle est inventée sur le moment, entre la relative faiblesse des discours officiels et ce qui s'est passé, je crois, un besoin chez les gens de se retrouver autour de valeurs. Ne serait-ce que de fraternité, d'unité, de faire quelque chose ensemble, de lutter pour quelque chose d'un peu plus humain ensemble. Et je crois qu'il y a dans l'expression de ce besoin considérable bien plus que ce qu'on ose en dire. Et de ce point de vue, ça pourrait manifester un certain vide spirituel collectif qui n'est pas analysé, qu'on se refuse à voir et qui du coup restera vide, tournant à vide. Alors qu'il y a quelque chose, en effet, de très beau, enfin, humainement, et qui, en même temps, n'est porté par pas grand-chose, quand même. Enfin, bon. Outre la réaction à des choses horribles. Ça, c'est de l'ordre de l'évidence. Donc, alors, là, vous parliez, là, de ce point de vue, je bois un peu du petit lait, la réintégration, enfin, le fait d'assumer à nouveau la culture, en particulier la philosophie et la théologie, ce qui ne serait pas un luxe, disiez-vous. En effet, un vrai laïc doit-il être théologien? Ce serait très bien. Je ne suis pas sûr que l'Église en prenne le chemin, mais voyez, vous posiez la question ainsi, si je l'ai noté comme j'ai pu, est-ce que l'Église prend le chemin de cette nécessité pour le christianisme de pratiquer la tâche de la pensée théologique ou philosophique? Ben, y en a quelques-uns qui acceptent, en perdant leurs derniers cheveux, d'en faire leur métier. Même parmi les clercs, aujourd'hui, c'est très difficile à trouver. Pas par défaut d'intelligence, mais d'abord par défaut numérique, la masse critique, en quelque sorte, qui n'y est pas, par écrasement du poids pastoral, parce que étant moins nombreux pour faire les choses, rester dans sa chambre à lire un livre est un luxe intolérable, puisque c'est refuser de rencontrer des gens, en même temps et sous le même rapport, c'est notre vie, hein, donc... Et puis, je ne suis pas sûr que l'esprit y soit tellement actuellement, justement à cause de cela. Et je crois que là, c'est très dommage, parce que si les chrétiens n'assument plus leur propre culture, là, il y aura une perte sévère pour eux et aussi pour les autres. Pour les autres, elle n'est que trop évidente. Enfin, quand même, la désertification culturelle de l'élite sociale qui parle à la télévision est quand même assez tragique, surtout lorsqu'elle se mêle de faire de la théologie. En général, tous ceux qui ne sont pas chrétiens font de la théologie catholique. Entre hommes politiques, écrivains, musicien, footballeur, enfin tout le monde a une opinion sur ce que doit être la théologie catholique et romaine. Hein. Le reste n'est pas très intéressant, semble-t-il. Là, il y a quelque chose. Mais tout le monde en fait. En général, ça part dans tous les sens. De ce point de vue, la réponse cultivée catholique, ou bien on ne veut pas l'entendre, on ne la reçoit pas très bien, ou bien elle est tout de même un peu anémiée, un peu rare, et je suis le premier à le déplorer. Maintenant, c'est pas l'Église. Ce sont les chrétiens, c'est la communauté chrétienne. Là, on en revient à quelque chose de très trivial. Qui fait quoi? Parce que tout est possible. Enfin, il y a vraiment de la place pour tout le monde, il y a des places vides. Maintenant, qui fait quoi, peut-être, en se disant « je vais accepter de faire ça, et ça ne sera pas terrible, mais il n'y a personne d'autre ». Alors, un mouvement pourrait être créé, au contraire. Je crois que nous sommes sortis, on parlait de la génération du père de Lubac, c'est une génération numériquement et culturellement luxueuse, qui avaient tout reçu, et ils étaient nombreux. Et aujourd'hui, évidemment, de ce point de vue, donc, vous voyez, c'est un peu simplet ce que je vous dis, mais je crois que tout est possible s'il y a des gens pour le faire, au plan culturel comme pour le reste. C'est pour ça que, lorsqu'on en vient, souvent on entend cela dans les médias, pourquoi l'Église fait-elle ceci, ne fait-elle pas cela, mais l'Église, c'est les gens qui la composent. Et donc ceux qui acceptent de faire. Et donc si quelque chose ne se fait pas, c'est pas en vertu d'une obstruction, c'est parce qu'il n'y a personne pour le faire. Ça n'est que cela. Oui, ça n'est que cela. Alors bien sûr, il peut y avoir des motions. Enfin, les chefs de l'Église donnent des motions pour tout. Donc, d'une certaine manière, il y en a presque trop. Donc, qui fait quoi ensuite? Et on est plutôt face à une période de disette numérique. Et puis, peut-être parce que c'est dur, d'abord intellectuellement. Et puis, c'est dur d'avoir aussi à se confronter, parce qu'on ne nous fait pas de cadeaux. Nous sommes la matrice, pour le coup, nous sommes le ventre mou, au nid, et en même temps, qui fascine. ne connaissant finalement mal le personnage, j'ai lu un entretien dans le Figaro magazine de Houellebecq de la semaine dernière, j'en suis resté assis par terre. C'est d'une précision sociologique et pro-catholique qui m'a laissé pantois. Enfin, c'est... Bon. Donc, il connaît. Lui, il a... enfin, il y avait quelques idées qui m'ont paru assez justes. Bon. Maintenant, qui fait quoi? Qui ose se mouiller dans ce domaine? Je crois que là, il faut une nouvelle génération, enfin, et un peu numériquement représentée, chacun faisant ensuite ce qu'il peut. Ça, ça n'est pas gagné. Je me permets de vous le signaler. Sommes-nous débarrassés du mythe du Moyen-Âge chrétien? Je crois avoir dit tout à l'heure, en incise, c'est vrai qu'il avait une part imaginative. Donc j'allais dans votre sens, monsieur Besançon. Mais votre question portait sur la disposition différente de l'Amérique par rapport à nous, incontestablement. Mais leur, alors là, c'est plus une question presque, mais justement, leur régime athée d'un peuple religieux se vit-il comme nous, même s'il est différent, sur fond d'une séparation aussi agressive? C'est à la fois plus tranché encore, mais en même temps très bonhomme. Peut-être parce qu'ils sont tellement issus de, nativement, de minorités religieuses du christianisme, qu'ils ont été obligés de s'accommoder. Alors que nous, et c'est ça qui fait l'élément matriciel, nous sortons d'une Europe au moins occidentale qui était catholique de bout en bout, avec des exceptions. Enfin, je crois avoir lu un chiffre dans les premières lois sur la séparation, c'est avant 1905, donc c'est 5 ou 10 ans avant, ça n'a pas dû changer substantiellement. 97,5% des Français sont baptisés catholiques. Ça laisse 2,5% pour les protestants et les juifs. Donc les députés de l'Assemblée nationale étaient tous catholiques, sauf un peut-être. On a changé de monde de ce point. La matrice n'est pas seulement chrétienne chez nous, elle est catholique romaine. Et c'est ça qui fait la différence, je crois, de position de chrétienté par rapport à l'Amérique qui a bénéficié plutôt, dans un premier temps, d'une certaine façon, des marginaux du catholicisme ou du protestantisme aussi. Donc ils ont dû se composer une société autre, tandis que nous, elle était plus unifiée et plus univoque par héritage, en quelque sorte. En plus, chez nous, en France, c'est un pays centralisé, donc ça n'arrange pas les choses, si je puis dire. Faut-il attendre un homme providentiel? Je crois que c'est pour le coup un réflexe de chrétienté que d'en attendre un, et c'est un réflexe de chrétienté propre aux médias, mais oui, il en reste quelques lambeaux de chrétienté dans le discours médiatique, que d'attendre un homme providentiel, voire chez les chrétiens, d'en faire parfois la thématisation. Je la crois très risquée, et pour ne pas dire dangereuse, parce que le seul homme providentiel au sens strict, c'est le Christ. Bon, tout le reste, justement, n'est même pas une photocopie, n'est qu'une très pâle imitation, et douteuse. De ce point de vue, là, je rejoins Gilson qui dit, attention, la seule chrétienté, c'est l'Église sous ce rapport. On change de plan et on dégringole sérieusement lorsqu'on arrive au plan des hommes. Un homme politique, quelles que soient ses vertus, ses qualités, ne sera jamais qu'un homme élu, porté au pouvoir, pour un temps, avec un certain nombre de réussites et quelques échecs. Je me souviens, pour ne pas suivre d'ailleurs l'actualité très souvent, mais enfin, de la période qui avait précédé l'élection, la première élection de Barack Obama. Je crois n'avoir jamais vu de ma vie une telle thématisation de l'homme providentiel. C'était théologiquement presque délirant pour s'achever aujourd'hui, semble-t-il, dans une configuration inversée, les deux étant, de mon point de vue, très exagéré. En fond, on leur demande beaucoup trop. Alors, en un sens, théologiquement, là, de certaine manière, je retrouve ma casquette de théologien, mais tout est providentiel, puisque tout ce qui relève de la providence relève des causes secondes. Dieu ne fait pas tout seul, il le fait avec nous. Donc, dès que nous nous levons le matin, nous œuvrons à quelque chose de la providence. Donc, un homme politique qui prend les rênes de l'État participe à la providence, mais c'est tout. Il n'accomplit pas pour autant les desseins divins, loin s'en faut. Donc je crois que ce serait un mauvais prolongement de la chrétienté que de réclamer des hommes politiques qui soient des hommes providence. D'abord en soi, sur le principe, et en plus sur le résultat, lorsqu'en plus on s'aperçoit que ça ne marche pas si bien. Car, au terme, c'est à la providence divine elle-même qu'on risque de renoncer. De l'avoir caricaturée, c'est sur elle qu'on fait reporter ensuite les crimes. Um... Je reviens sur la question numérique qui a été posée tout à l'heure. Vous disiez que l'Église catholique s'étiole. Est-ce par hostilité à la foi? Est-ce en vertu de l'appareil de l'Église? Ou est-ce que les choses vont changer? Il y a sans doute une multiplicité de causes, en tout cas dans nos pays un peu fatigués, d'hostilité à la foi, très certainement, pour des raisons authentiques ou des raisons fausses, parce qu'il faut trouver un coupable, parce que la foi est exigeante et qu'elle oblige à faire des choix et à renoncer à des compromissions, disons. Très honnêtement, la thématique fréquente de l'appareil de l'Église me laisse un peu pantois ces temps-ci. Enfin, le moindre vendeur des quatre saisons est très au courant de ce qui se passe dans la curie romaine. Il doit connaître personnellement toutes les personnes qui y travaillent. J'admire. Je suis un peu surpris. Alors, qu'il y ait, parce que c'est Rome, parce que c'est un lieu de pouvoir, parce que c'est peut-être une cour du carriérisme, des excès, voire, disons, pour rester pudique, des fragilités morales chez certains membres qui y travaillent, c'est très possible. Comme tout le monde, on en a des échos, et donc des réalités. Mais enfin, ce sont de pauvres gens arrachés à leur pays qui rendent un service obscur, mal payé, pour régler nos problèmes. C'est-à-dire ma reconnaissance de nullité de mariage dans un contexte sordide, ce sera quelqu'un qui, effectivement, à la curie, va y passer 3 mois sur dossier. Et on trouve que ça va pas assez vite, en effet, parce qu'ils sont pas assez nombreux et qu'ils sont mal payés. Donc, il y a de tout. Alors, bien sûr, c'est un lieu de pouvoir, et tout lieu de pouvoir suscite les pourrissements de lieux de pouvoir. Mais enfin, ce sont quand même des gens dévoués, mais on peut très bien tout éradiquer, il suffit simplement d'en trouver d'autres. Où les prend-on? Où les prend-on? Il n'y a personne en réserve. Il n'y a pas de réserve. Il y aura toujours quelqu'un, mais on va trouver quelqu'un. Non, il n'y a pas de réserve. Je me suis amusé dans un petit machin qui devrait paraître dans un mois sur la politique, justement, à dire, on compare souvent l'Église à un chapeau dont on tirerait des petits lapins au fur et à mesure des besoins. Mais il n'y a pas de lapin de réserve. Tout le monde est en première ligne. Donc, si c'est facile de remplacer si on trouve quelqu'un de meilleur, de prêt, de polyglotte, de doué et de fait pour la diplomatie. C'est très facile. Parmi vos enfants, y en a-t-il? S'il n'y en a pas, eh ben c'est qu'il n'y en a pas. Donc, je ne crois pas, d'autant que l'appareil de l'Église, alors à notre niveau, à nous, dans notre pays où les prêtres ne sont pas payés par l'État, vit un train de vie, disons, relativement modeste, tout de même, je ne crois pas qu'en tant que tel, il scandalise. Qu'il y ait des individus qui fassent des bêtises, bah oui, comme partout, mais encore, y en a-t-il pas tant que ça, finalement. Donc, ça, je ne crois pas qu'ultimement, ce soit une véritable raison, c'est plus un drapeau. Maintenant, est-ce que les choses vont changer? Vous posiez la question. Je ne sais pas, parce qu'il peut y avoir des retournements spirituels. Je crois que les critiques, lorsqu'elles sont violentes, elles sont aussi le signe d'une demande spirituelle. Un peu comme quelqu'un, quand vous aborde dans la rue, et vous agresse verbalement. Je ne prétends pas savoir le faire, mais je connais des gens qui savent le faire, qui supportent l'agression et qui disent, bon, ils prennent la personne par le bras en disant, bon, on va dans un café, on discute maintenant. Alors, on y perd 4 heures. Mais la personne dit sa misère. Et là, de ce point de vue, il y a quelque chose de très beau. Donc, est-ce que des choses vont changer? Oui, très certainement, s'il y a des gens pour les changer, ça peut changer très très vite. Il suffit qu'il y ait des gens pour les changer. C'est pas un changement de structure qui est important, ça, ce serait une vision trop politique de la chose. Je crois que c'est un changement de comportement qui relève de la conversion, peut-être un peu d'habileté, peut-être plus d'intelligence ou de courage. Le courage, oui, tiens, après tout. Le courage médiatique des gens d'église, ça pourrait être amélioré sans frais, je trouve. Non pas pour insulter les gens, mais pour dire des choses de manière un petit peu plus percutante, parfois. Faut-il souhaiter la fin de la chrétienté pour que vienne l'Évangile? Vous avez cité M. Kierkegaard et Ricoeur, ce n'est sans doute pas un hasard, ce sont deux protestants, justement. Alors, évidemment, pour eux, la dialectique joue. Plus on effacera les médiations de la chrétienté, plus la vérité de l'Évangile se montrera. Bon, quant à la fin de la pompe, je ne suis pas très sûr qu'il en reste beaucoup. On en est quand même assez loin. On est même plutôt dans un misérabilisme cultivé, enfin qui se cultive, qui n'est pas cultivé, mais qui se cultive tel, qui peut d'ailleurs peut avoir un effet déprimant sur les jeunes générations de chrétiens, d'ailleurs. d'estimer qu'il faut prendre une pause misérabiliste pour moche et mal fichu pour avoir l'air plus chrétien. Je suis pas sûr que... Je sais plus quelle personne, lorsqu'elle allait visiter des favelas au Brésil, parce que c'était une personnalité connue, je sais plus très bien d'où vient l'exemple, faisait exprès de mettre ses plus beaux habits, ses colliers de perles, etc. Ce sont des pauvres, ils ont droit à notre honneur. En tout cas, pour faire advenir l'Évangile, je ne crois pas que ce soit par dialectique par rapport aux aux médiations humaines de la chrétienté, au contraire. Moins il y a de médiation, moins il y a d'Évangile. C'est une opinion théologique, enfin c'est une option théologique. Moins il y a de médiations humaines, moins il y a d'Évangile, parce que moins l'Évangile peut passer. Parce que de toute façon, même dans le cas d'un Évangile purifié, ce sera toujours par des hommes. Donc il y aura des médiations. Autres. Et dans le domaine de la politique, si ce ne sont pas celles de l'Église, ce seront finalement celles du pouvoir politique. Je ne suis pas sûr qu'on y gagne toujours sous le rapport du remplacement. Excusez-moi, j'ai répondu comme j'ai pu à vos questions. J'ai dû en oublier.
Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre, bien sûr, brillante compétence. Et puis aussi de nous avoir fait part de vos opinions. Merci pour la franchise de vos propos. Merci beaucoup au nom de tous. Merci. Oui, je vais le faire.